RCF.
Christian Bobin, c'est un style, une fulgurance. Il est un de ces artistes qui tirent l'humain vers le haut, vers une plus grande attention au monde. S'il nous rejoint, c'est à la manière d'une Thérèse de Lisieux, carmélite cloîtrée désignée patronne des missions. L'ermite du Creusot parle un langage universel. Ce sont les mots de Christophe Hénin, auteur de Christian Bobin, de la joie, qui vient de paraître dans la collection Prier 15 jours aux éditions Nouvelle Cité. Un livre pour cheminer, méditer, prendre le temps de découvrir ou de redécouvrir une œuvre qui ne peut être séparée de la vie. Bonjour Christophe Hénin.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes journaliste à La Croix, producteur sur RCF. Aujourd'hui, c'est l'écrivain que je reçois dans Dialogue. Vous avez en effet publié de nombreux ouvrages croisant littérature, poésie, spiritualité. Christian Bobin est poète, auteur d'une œuvre importante et discrète. Il nous a quittés en 2022. Vous venez de lui consacrer un livre qui n'est pas simplement une monographie, mais un ouvrage très personnel, intime, chaleureux, qui va à l'essentiel. Pourriez-vous, pour commencer, très simplement, évoquer ce qui a été personnellement au cœur de votre rencontre avec Christian Bobin ?
Écoutez, je vais vous surprendre. Au cœur de la rencontre avec Christian Bobin, c'est très souvent le silence. Simplement parce que c'est un homme qu'on approche avec infiniment de, j'allais dire, de prudence, en tout cas de retenue, tellement il est en tout cas, peut-être moins dans ces dernières années où il s'est beaucoup ouvert, rapidement au monde médiatique. Il a accepté beaucoup d'invitations, mais dans les tout débuts, quand j'ai fait sa connaissance, il y avait ce côté très, très discret, très retenu. Et c'était, voilà, d'une certaine manière très intense. Ça ne veut pas dire qu'on ne se disait rien, mais que la conversation se faisait, puis qu'au bout d'un moment, le silence s'installait doucement et il disait « Je crois qu'on va s'arrêter là ».
Votre livre se déploie en 15 chapitres, initiés par 15 textes de Christian Bobin que vous avez choisis, que vous proposez à vos lecteurs. On commence par donner des jalons biographiques, mais l'originalité, me semble-t-il, c'est de faire le récit de moments de vie entrelacés avec les mots du poète, sans oublier, comme vous le dites, de cueillir les petits riens qui font la vie. Pourriez-vous esquisser un petit peu à la manière d'un dessinateur, d'un peintre, par exemple comme Matisse, un portrait de Christian Bobin avec une économie de traits, en disant à l'essentiel?
C'est touchant, émouvant que vous citiez Matisse, effectivement la peinture et la créativité étant en regard de Christian Bobin, qui parle aussi beaucoup de Soulages, hein, de Pierre Soulages, avec ses ombres noires. Mais effectivement, la vie de Christian Bobin est faite peut-être d'ombre et lumière, justement, d'une enfance assez terne, même si c'est un garçon parfois espiègle. Mais en même temps, c'est un enfant, il dit lui-même, hein, qui est prisonnier au berceau, c'est-à-dire que ses parents ne souhaitent pas qu'il quitte la maison, qu'il ne traverse même la rue pour aller dans le jardin qui entoure l'église, qui est juste en face de la maison familiale. Et en même temps, c'est, vous l'avez dit en introduction, ces petits riens de son existence ont un goût d'universel. Et il nous rejoint justement par ces petits riens que lui regarde et nous apprend à regarder. Je pense que on aurait pu mettre aussi l'écrivain de l'émerveillement, le poète de la surprise. Voilà comment Christian Bobin a paru peut-être au moins dans le début de son existence comme ne trouvant pas sa place dans la société, ensuite se réservant justement un peu cette distance qui lui permettait de réfléchir à ces petits riens qui faisaient son existence, et puis après peut-être cette reconnaissance de cette poésie qui rencontrait un grand nombre de lecteurs qui venaient toucher simplement par les mots qu'il trouvait, qui étaient des mots très simple et en même temps tellement juste.
Parlons du lieu, de ce qui fait la poétique de l'espace, pour reprendre une expression de Gaston Bachelard. Bobin écrit « Je n'ai pas vraiment de pays natal, Dieu m'a mis au Creusot pour que j'y compte les brins d'herbe. Le jour où il le décidera, j'irai ailleurs. » Alors, je voudrais vous interroger sur cet enracinement que vous commentez. Vous dites c'est le propre de notre incarnation, finalement, que d'être quelque part. Ce lieu, il est quand même pas anodin. C'est un lieu porteur d'une histoire industrielle, d'une histoire ouvrière, un horizon social qui pourrait paraître restreint, étouffant. Or, il y a à la fois une immobilité, une fidélité à cet ancrage dans la vie de Christian Bobin.
C'est vrai qu'il n'a jamais cherché à aller habiter ailleurs, sauf peut-être cette maison au milieu de la forêt qu'il a occupée un temps, mais qui était à quelques dizaines de kilomètres à peine du Creusot. Donc je trouve effectivement qu'il y a quelque chose d'une fidélité à ce lieu. Et aussi, c'est ce que vous rappeliez à l'instant, hein, c'est que pour Christian Bobin, Dieu ne nous veut pas ailleurs que là où nous sommes. Je trouve que c'est une leçon intéressante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, qu'il n'y a pas des contingences qui font qu'on peut quitter sa région, déménager. Mais je pense que c'est l'esprit lui-même qui est libre et qui peut se déplacer, toucher l'universel, tout en restant incarné, enraciné quelque part. Et cet enracinement, vous l'avez dit, il n'est pas forcément. Le Creusot, c'est une ville active, dynamique d'une certaine manière, mais aussi douloureuse avec cette industrie lourde qui a longtemps prédominé dans la ville. Voilà, c'est de ce que nous recevons, de ce que nous vivons, nous pouvons faire quelque chose. Christian Bobin le disait bien aussi, hein, que s'il voulait voir le bout du monde, il regardait le bout de ses chaussures, et que c'était déjà cette ouverture à l'universel pour lui. Je pense que voilà, le Creusot l'a nourri, et lui-même a fleuri peut-être dans cette terre qu'on pourrait considérer comme alors, j'ose le dire, peut-être ingrate, eh ben, il lui a rendu toute sa noblesse.
Les origines de Christian Bobin sont très modestes. Les livres ont beaucoup compté pour lui. Vous parlez également des livres de Christian Bobin qui parlent pour lui aussi. Quel rôle a joué, et sans doute un rôle très important, la lecture dans le parcours, dans le cheminement de Christian Bobin?
Je crois que c'est la lecture, effectivement, la littérature, les écrivains russes notamment, c'est la lecture de l'existence. Véritablement, il s'accroche à la nature, aux petits riens, aux fleurs, avec ce risque, hein, d'être considéré comme le poète. Un petit peu simple par rapport justement à cette lecture, et en même temps il y a toujours cet engagement pour lui dans ce trois fois rien qui dit quelque chose de l'existence. En fait, il nous invite à nous émerveiller, à regarder autour de nous. En gros, il nous dit ça, il nous dit mais regardez, même en ville, regardez ce qui se passe, ouvrez les yeux, allez vers l'autre. C'est un peu cette démarche qui fait que il se nourrit presque des autres, alors que finalement c'est aux autres qu'il donne beaucoup de lui-même.
Il est resté un écrivain discret, humble, comme vous venez de l'évoquer, loin des mondanités parisiennes ou des salons littéraires. Ses livres ont été publiés très tôt, d'abord pour un public de connaisseurs, et en 1992 paraît le Trébat, un livre qui a un réel succès. C'est, vous l'expliquez, un tournant dans son œuvre. Il va obtenir certains prix, comme le Grand Prix de littérature catholique, ensuite, quelques années plus tard, le Prix de l'Académie française, mais la critique est très ambivalente. Il y a une reconnaissance mitigée. Pourquoi ces réserves, et qu'est-ce que cela nous dit aussi sur peut-être notre rapport à la poésie articulée à la foi?
Ben, c'est vrai que c'est un milieu qui peut être cruel. Le succès crée sans doute des jalousies, on peut le comprendre. Ce qui faisait aussi peut-être que Christian Bobin était, comment dire, pas toujours bien reçu, en tout cas dans le milieu littéraire, c'est que il était pas indifférent, mais malgré tout pas inquiet de ce que les uns et les autres pouvaient penser. C'est vrai que vous parliez du très bas. On voit que le très bas, effectivement, connaît un vrai succès, touche par sa qualité littéraire évidente, par le thème qu'il peut aborder. Et du coup, c'est après ce succès, on va regarder ses livres avec beaucoup plus de vigilance, de sévérité peut-être. Et c'est effectivement pour lui un passage un peu douloureux. Mais en même temps, après, il faut reconnaître que ces dernières années, il était tout à fait reconnu légitime. Le problème, c'est que quand on parle de choses simples, quand on écrit sur des choses simples, ça ne veut pas dire que la pensée elle-même est simple et que l'écriture est simple. Moi, je l'ai vu sur cette petite table de travail avec un gros feutre, des pages blanches qu'il écrit, enfin dans lequel il se jetait finalement pour écrire très simplement. Tout était à la fois dépouillé et en même temps d'une grande concentration. Je pense que c'est ça aussi qui parfois échappe à la lecture de la poésie. C'est vrai que on peut avoir l'impression que la poésie c'est quelque chose de simple, d'accessible, de facile. Ça ne l'est pas du tout. Et puis alors, ce qui est aussi très intéressant chez Christian Bobin, c'est que cette poésie, il la tisse avec sa propre existence, avec les rencontres. Je parlais de Soulage, par exemple. Il se raconte d'une certaine manière assez poétique, et c'est ça aussi qui fait qu'il vient à notre rencontre.
Dialogue, Sarah Brunel.
Christophe Hénin, nous venons d'écouter un extrait de l'Andante de la jeune fille et la mort de Franz Schubert. Cette musique a pour moi résonné avec l'écriture de Christian Bobin. Je pense à effectivement vos notes dans ce livre sur Bobin après la mort de l'écrivain, avec une sorte d'écho entre le premier et le dernier chapitre du commencement et de la fin d'une vie. Cette idée que Bobin a été au cœur de la vie, mais aussi a accepté, on va dire, cette question de la mort et de la prendre en charge dans l'écriture. C'est une question difficile que le monde moderne écarte un peu. Comment l'écriture dans l'œuvre de Bobin arrive-t-elle à témoigner de tout ça?
C'est vrai que la mort, c'est un sujet qu'il aborde à la fois avec une confiance d'une certaine manière, hein, puisqu'il avait quand même une foi en l'existence. Le sens du passage dans l'existence, et puis aussi avec les douleurs de la mort pour ses parents, pour Ghislaine, une jeune femme avec qui il était très proche et qui est décédée d'un accident vasculaire cérébral et qui le laisse complètement désemparé. Et en même temps, conscient que la vie ne peut exister qu'avec cette perspective de la mort, malgré tout. Ce qui donne une intensité aussi, j'aurais pu le développer à l'instant. Christian Bobin, c'est peut-être aussi le poète de l'instant. On se souvient de ses interventions, notamment sur RCF, quand il développe une idée, une pensée, il avance, et à un moment, il se retrouve un peu comme si c'était une petite mort. Il se retrouve devant l'impasse. Il peut pas aller plus loin dans sa réflexion, et ça se termine par un éclat de rire. Et je pense que c'est ça aussi, peut-être. J'ai envie de rapprocher cet éclat de rire à la mort, dont il est comme nous tous, je vais pas dire inquiet, mais simplement, je retrouve, par exemple, dans le livre, je cite un passage, un moment où il parle de l'heure de notre mort. Il écrit simplement: c'est ainsi que j'imagine ma mort. Une chose un jour viendra à ma rencontre. Cette chose sera si pure que je ne saurai plus quoi penser, plus quoi en dire, et j'en aurai le souffle coupé définitivement. C'est ce que je vous disais par rapport à cet éclat de rire, hein, qu'on a tous dans les oreilles, pour ceux qui ont pu le voir dans les médias. Face à la mort, cet éclat de rire, c'est-à-dire peut-être cet éclat de vie, de patience, de confiance et d'attention à l'instant véritablement présent.
Vous évoquiez avec la question de la mort ce qui vient à notre rencontre. J'aimerais interroger avec vous cette importance de la thématique de la rencontre, par exemple la rencontre avec Ghislaine que vous évoquiez, et comment il le formule, c'est-à-dire cette idée d'une deuxième naissance que formule Bobin. Ma deuxième naissance a commencé en la voyant entrer dans la pièce. Bobin évoquait une deuxième naissance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on rencontre? Une personne, un lieu, un instant, c'est assez mystérieux.
C'est mystérieux, alors c'est aussi... Vous avez raison de souligner cette question de la deuxième naissance, une formule qu'il a utilisée à plusieurs reprises, mais je pense qu'effectivement elle s'attache surtout à cette rencontre avec Ghislaine, je pense que dans la rencontre quelque chose peut se révéler de moi-même. Il y a une forme de dans la naissance. La naissance est une certaine manière, peut-être de, c'est une chose, en tout cas, la première naissance, et peut-être les suivantes, c'est ce qu'il veut nous dire, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas et qui est pourtant au cœur de notre existence. La naissance, notre naissance, nous n'en sommes pas témoins, nous en sommes acteurs, mais acteurs par la volonté des autres. Et je trouve que c'est peut-être ça aussi, c'est... Qu'est-ce qui va révéler Christian Bobin, sans doute cette rencontre vécue aussi avec intensité, qui dit au poète ce qu'il est et la richesse qu'il représente pour d'autres?
En 2023, le prix Goncourt de poésie est attribué à titre posthume à Christian Bobin. Votre livre a pour titre Christian Bobin, poète de la joie. Quel est, avec Christian Bobin, le sens du mot poésie?
La poésie, je pense que pour Christian Bobin, c'est une question de respiration. Vous voyez, quand je l'imagine, parce que je ne l'ai pas vu au travail, j'ai vu le lieu, enfin son bureau. Je pense que l'écriture n'était pas quelque chose, un travail acharné, dans le sens où il faut extirper les mots pour pouvoir en faire quelque chose, pour les tisser. Non, je pense que son bureau était face à une fenêtre, sur la nature, quand il était dans sa maison, au milieu des bois, sur les toits de... du Creusot quand il était en appartement. Voilà, c'est une respiration avec ce quelque chose qu'il va recevoir et qu'il va, peut-être faire mûrir d'une certaine manière. Je pense que la poésie fait mûrir notre regard, va saisir quelque chose pour en quelques mots dire quelque chose qui est indicible. Souvent, Bobin bute là-dessus, sur l'indicible, sur quelque chose qui, va peut-être le bouleverser, le toucher et trouver des mots simples pour dire la course d'un escargot. Très franchement, il y a une forme de gratuité dans cette poésie et en même temps d'urgence pour lui, parce que c'est ce qu'il voit à l'instant où il se dit cet escargot a quelque chose de, enfin, quelque chose de la vie, et comment le transcrire, comment le faire passer.
Dire l'indicible, c'est aussi se confronter à notre fragilité, et c'est aussi le dire à quelqu'un. Je cite Christian Bobin, si le poème dit une vérité, c'est celle-là, nous ne sommes pas seuls. Alors c'est un mot important sur la poésie. On n'entend plus beaucoup parler de poésie aujourd'hui, et en particulier dans les médias, on en voit assez peu dans les rayons librairies, sauf dans de très bonnes librairies. Qu'est-ce que cela nous dit aussi sur peut-être ce courage et cette fermeté de Christian Bobin à maintenir ce cap?
Oui, je pense que en fait, sa poésie, elle est aussi... On dit très clairement que l'écriture de Christian Bobin, c'est de la poésie. Or, en même temps, il fait pas des vers, il raconte l'existence. Il y a toujours quelque chose de la vie qui coule à travers sa poésie. Je pense que la poésie et les livres de Christian Bobin, dans ce sens, sont effectivement de la poésie. C'est quelque chose que, là aussi, je reviens à ce terme de respiration, enfin, quelque chose que l'on peut respirer. Quand vous abordez un roman, que ce soit un polar ou un livre d'histoire ou un livre d'amour ou de tout ce qui peut exister dans la littérature, vous êtes entraîné par l'auteur pour avancer, pour aller plus loin, pour comprendre ce qui se passe, pour goûter cette histoire que l'écrivain a pu raconter, que le romancier peut raconter. Dans la poésie, vous êtes invité à chaque instant à vous arrêter. Christian Bobin, c'était effectivement des petits livres que vous pouvez mettre plusieurs jours à découvrir en très petit à petit. D'ailleurs, là aussi, l'idée de prier 15 jours, même si le livre n'est pas tout à fait consacré à la prière, mais plus à une sorte de réflexion, de méditation de l'existence avec Christian Bobin, le fait d'avoir 15 jours, c'est aussi une invitation dans cette collection à prendre quelques pages, ne pas aller plus loin, les laisser simplement agir. Je pense que la poésie nous touche, et ça on en est conscient, nous transforme, on l'est beaucoup moins. C'est avec le temps qu'elle infuse.
La poésie exige du temps, elle exige notre disponibilité. C'est un état intérieur, c'est aussi un état spirituel. Bobin est un écrivain nourri de questionnements spirituels. Quelle est la spiritualité, ou quelle était la spiritualité de Christian Bobin?
Ce qui est très clair, c'est qu'il l'écrit... c'est un croyant... j'allais dire de sensibilité catholique, parce que il avait horreur des étiquettes, donc ça c'est sans doute quelque chose qui est important de souligner, mais ça veut dire que effectivement on le voit bien avec ses écrits, et notamment le très bas, il y a une sorte de quête de Dieu, de recherche, oui effectivement de comment approcher le mystère. Je pense que c'est ça aussi qui faisait cette curiosité inlassable pour chercher à définir non pas le très haut, mais le très bas. Là encore, dans un autre texte, il écrit « Parce que Dieu est le plus faible, il lui faut se mettre à l'abri de notre force, et l'univers n'est fait que de ses cachettes. » C'est derrière la petite flamme sautillante du rouge-gorge et dans la lassitude qui ravine les yeux des pauvres qu'on le devine le plus. Vous voyez, ce Dieu auquel il croit, il est à la fois insaisissable par la force et éminemment présent dans la fragilité, dans la poésie, dans les petites choses de l'existence, partout où il peut y avoir de la vie.
Une des figures importantes de cette spiritualité, vous évoquiez le très bas, c'est Saint François d'Assise. Le très bas ou la sagesse d'un pauvre. Quel est le Saint François d'Assise de Christian Bobin, le fondateur d'un ordre mendiant, le frère poète qui parle aux oiseaux, le nomade, le pauvre, le très bas. Donc pourquoi cette importance-là?
J'ai presque envie de dire que c'est le frère François d'Assise pour lui, comme un compagnon de route, comme... Alors là, pour le coup, François d'Assise, lui, c'est beaucoup... a beaucoup voyagé, beaucoup circulé. Je pense que Christian Bobin retrouve dans la figure de François d'Assise ce pari d'une existence dépouillée. On l'a dit, il aurait pu être heureux il en était, mais comment dire, fier de son succès, orgueilleux peut-être de son succès. Eh bien, ce qui était important, c'est que ses livres puissent résonner auprès des lecteurs. C'est pas sa personne qu'il importait le plus. Et là, on retrouve cet esprit de François d'Assise qui sait se dépouiller de tout pour chanter, pour s'émerveiller encore, j'y reviens, avec le cantique de la création, par exemple, avec cette rencontre fraternelle que suscitait François d'Assise, et la façon dont Christian Bobin pouvait, à sa manière aussi, vivre à la fois ce dépouillement, cet émerveillement, cette invitation à la rencontre et à une forme de fraternité, peut-être, de partage fraternel à travers la poésie, à travers l'émerveillement, puis à travers cet éclat de rire, j'ai encore envie d'y revenir, qui est une forme de d'épanouissement, de reconnaissance, de joie profonde finalement, au-delà des épreuves que Christian Bobin a pu rencontrer, et ça, nous y sommes tous invités. Il s'agit pas de nier les souffrances, les épreuves qui peuvent nous arriver, mais malgré tout peut-être trouver cet éclat de joie simplement parce que on a ouvert les yeux.
J'aurais, Christophe Hénin, une dernière question qui, si vous le permettez, serait une question un petit peu plus personnelle pour vous. J'aimerais savoir quel est le livre de Christian Bobin qui a le plus compté pour vous.
Écoutez, il y en a beaucoup, effectivement. Je pense à un tout petit livre qui s'appelle L'homme qui marche, où, en fait, il ne dit pas Jésus, il dit tout au long de ce petit texte, l'homme qui marche, il marche sans arrêt, il va ici et puis là, c'est le début du texte. Il vit sur 60 kilomètres de long et 30 de large, et il marche, il ne s'arrête pas. Et voilà, c'est toute cette histoire de l'homme qui marche, de Jésus qui traverse l'humanité, très simplement, et qui nous laisse la trace de son passage. Et Christian Bobin savait tout à fait, j'ai envie de dire, déceler les traces dans l'existence, les traces de vie, les traces de joie, les traces aussi de souffrance et de mort dont on a parlé, qui n'échappent pas, dont on ne peut pas s'échapper. Et puis effectivement, cette trace que nous laisse sa poésie, son écriture.
Merci infiniment, Christophe Hénin, pour cette belle invitation à la lecture qui est avec vous un véritable art de s'attarder sur les choses de la vie et de les aimer. Votre livre « Christian Bobin, poète de la joie » est paru aux éditions Nouvelle Cité. Merci à Hugo Vincent et à Pierre-Henri Paget pour la transmission technique qui nous permet de partager cet émerveillement et cette passion de la poésie et de la pensée sur nos ondes sur RCF.